Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
h 33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin et surtout de nous donner les clés. Vous êtes économiste, vous êtes président de l'école d'économie de Paris, vous êtes normalien agrégé de mathématiques et aujourd'hui, on l'entend dans tous les sondages, la moitié des Français dit être à 5 euros près lorsqu'ils vont faire leurs courses. Inflation qui explose, croissance qui s'écrase, salaire qui stagne. Alors faut-il craindre le pire à la fois sur notre portefeuille, notre caddie, mais aussi sur une question de la souffrance, du mécontentement et peut-être même d'une colère sociale. C'est tout cela qu'il faut que vous nous aidiez à mieux comprendre ce matin. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où on est ce matin ? Est-ce qu'on est dans un pays en crise, dans une Europe en crise, dans un monde en crise ? Est-ce qu'on peut dire le mot crise ?
Oui, si on ne le dit pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le dire. On est dans un monde en crise, évidemment, avec la guerre en Ukraine qui est en train de nous obliger à réviser toute l'idée qu'on pouvait avoir de la paix au XXIe siècle. On a la guerre à nos frontières, donc ça change l'état d'esprit, indépendamment évidemment des choses très profondes qui se passent sur le terrain géopolitique. Et puis, on voit tous les dérèglements qu'une guerre comme celle-là est susceptible d'entraîner, notamment évidemment sur le front des matières premières et tout ce qu'on sait qui devait nous arriver, c'est-à-dire une transition et liée au réchauffement climatique, une nouvelle manière de concevoir nos énergies. Le GIEC nous avait mis en garde, il faut avant 2025 changer de paradigme. Et bien, bizarrement, de manière totalement imprévue, c'est la guerre qui nous oblige à réfléchir à tout ça. Donc oui, on est dans une accélération du monde qui était d'une certaine manière prévue, mais sur un mode parfaitement chaotique qui crée évidemment du désordre économique, ces tensions inflationniques, évidemment beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes.
Accélération et chaos. Concrètement, quand on met dans un shaker l'inflation qui explose, la croissance pratiquement à zéro et les salaires qui stagnent, ça donne quoi ?
Bah, ça donne, en plus de tous ces dérèglements climatiques et mondiaux, ça donne évidemment de l'incertitude domestique et donc du mécontentement social. On revit presque toutes les crises à la fois et il y a évidemment un petit parfum gilet jaune qui est là. Les salaires n'augmentent pas ou très peu, en tout cas de manière très inférieure à l'inflation. C'est ça qui, pour l'instant, fait la différence avec les années 70, où il y avait une dynamique où l'inflation créait une inflation salariale qui créait une inflation. Pour l'instant, en Europe, ça ne se produit pas. Donc, les salaires sont en deçà de l'inflation. Évidemment, ça fait de la perte de pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on gagne, si on peut dire, sur le terrain de l'inflation, on le perd du côté du pouvoir d'achat et ça augmente le
ressentiment. Pourquoi les deux ne sont plus corrélés ? Je voudrais justement donner un chiffre sur les trois premier mois de l'année, les salaires ont progressé de 2,3%, mais les prix ont progressé de 4,3%. Si je calcule bien, ça veut dire que, techniquement, les Français, dans le monde réel, leur salaire a baissé de 2 points, en fait.
On a baissé de 2 points. C'est plus grave encore en Allemagne, hein, parce qu'en réalité, en France, à cause des mesures qui ont été prises par le gouvernement, on a au mois d'avril une inflation de 4,8. Mais ce que l'INSEE nous dit, c'est que s'il n'y avait pas eu les mesures, le gel du prix du gaz et de l'électricité, le bouclier tarifaire du gouvernement, on aurait été à 7. L'Allemagne est à 7,8% avec une évolution salariale proche de celle qu'on a en France. Donc en réalité,
leur décalage à eux est encore pire.
Est encore plus violent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, s'il y a une explosion des salaires, on l'attend plutôt aujourd'hui en Allemagne, où le taux de chômage est également très bas, qu'en France à proprement parler. Mais indiscutablement, c'est de la perte de pouvoir d'achat. L'INSEE l'a estimé à moins 1,5% au premier trimestre et s'attend à encore moins 0,5% au deuxième. Donc on est sur une perte de pouvoir d'achat de 2%. C'est exactement le chiffre que vous disiez pour les Français dans leur ensemble, pas juste les salariés, en prenant en compte les transferts sociaux du gouvernement. Donc c'est en effet explosif. Vous disiez on vit à 5 euros, mais oui, évidemment, quand on est avant la crise au fil du rasoir, après la crise, sachant que les ménages les plus pauvres sont beaucoup plus impactés par le hausse du prix des produits alimentaires et de l'énergie que le reste de la société, on est dans une situation de tension sociale extrême.
On va revenir sur ce que vous dites sur le côté explosif de cette situation et sur la question aussi des inégalités, ceux qui sont le plus exposés à cette perte de pouvoir d'achat, mais quand même sur le décalage en effet entre les prix et les salaires. Il fut une époque où en France, les salaires étaient indexés sur les prix. Alors là, je pose vraiment la question à l'économiste qui théorise tout ça. Quand vous mettez ça dans votre grand ordinateur, en quelque sorte, qu'est-ce qui en sort ? Est-ce que ce serait encore souhaitable de réindexer les salaires sur les prix?
Alors, si c'est mécanique, non, ça ne peut pas être souhaitable, parce que à ce moment-là, ça veut dire qu'on repart comme dans les années 70 où j'augmente les salaires, les entreprises augmentent les prix, les salaires augmentent et ça fait une course infernale. Il faut justement tirer les leçons des échecs, entre guillemets, des années 70, parce que personne n'avait été gagnant de cette histoire, pour réfléchir de manière beaucoup plus globale. Dans les années 70, les pays qui s'en sont le mieux sortis sont les pays où il y avait justement un consensus social pour affronter cette crise de manière coordonnée. Donc là, on voit
ça
bien...
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est les patrons, c'est les corporations qui, au cas par cas, décidaient d'augmenter?
Non. Oui, pas au cas par cas, justement. Il faut que ce soit global. Quand c'est au cas par cas, ça peut pas marcher. Parce
ça doit être global, mais pas mécanique.
Il faut que ça soit global et pas mécanique, exactement.
C'est subtil,
mais c'est ça qu'il faut réaliser. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut des accords tripartites avec... le gouvernement en arbitre, le gouvernement va mettre beaucoup d'argent dans cette histoire pour absorber le choc. Il faut que ce soit ciblé, il faut que ce soit compris, il faut que les salariés, les représentants, les syndicats de salariés et d'entreprises, le MEDEF, se réunissent aussi et qu'on sache ce qu'on veut faire. Donc qu'est-ce qu'on veut faire par branche? Il faut évidemment revaloriser les bas salaires. Comment je le fais? C'est des hausses de salaire, c'est des baisses de charges, c'est des transferts directs du gouvernement, et puis c'est des concessions du patronat aussi. Donc tout ça doit faire l'objet d'un consensus, d'une réflexion globale dans lequel on sait que si on augmente les salaires, ça n'est pas le lendemain matin pour augmenter les prix. Donc c'est subtil, c'est compliqué, mais il y a un coût à absorber de l'ordre, là, c'est le déficit énergétique.
Ça veut dire que le quoi qu'il en coûte n'est jamais fini, en fait. On a eu un quoi qu'il en coûte pour le Covid, on va avoir un quoi qu'il en coûte pour l'Ukraine et un quoi qu'il en coûte pour l'inflation.
Voilà, il le faut. Alors après, ce quoi qu'il en coûte, il faudra le solder, et c'est là que l'État devient l'arbitre. C'est-à-dire, si on veut traverser cette crise d'une manière qui soit socialement harmonieuse, oui, il faut que l'État mette la main à la poche. Donc, il faudra à un moment donné des mesures de redistribution. C'est-à-dire qu'on s'en sortira pas sans des mesures de fiscalité compensatrice. C'est ça, ce plan global qu'il faut
avoir.
Quand
vous dites fiscalité compensatrice, tout le monde entend augmentation des impôts.
Augmentation des impôts pour ceux qui sont les mieux protégés. Vous savez, pendant la crise du Covid, il y a une énorme constitution d'épargne qui s'est produite. Mais on sait aussi qu'elle est très inégalement répartie. Ce ne sont pas les bas salaires qui ont pu épargner pendant cette crise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la tension est très forte. Alors qu'on a, je ne sais pas combien, 150 milliards qui dorment encore, en fait, qui n'ont pas encore été dépensés. Donc, tout ça, c'est de la macroéconomie politique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des ménages qui traversent mieux cette crise que d'autres. Encore une fois, c'est quoi le choix? C'est soit on fait cet ensemble de discussions en même temps, simultanément, en sachant qu'il y aura des impacts redistributifs des mesures qu'on prend, soit on laisse les gens s'auto-organiser, et à ce moment-là, la récession sera pire, parce que on augmentera les prix et les salaires sans concertation globale.
Est-ce que dans ce cas, il y aura récession? Pour l'instant, le mot n'est pas lâché.
Alors, le mot n'est pas lâché. Sur l'année 2022, il n'y aura pas de récession. On aura une croissance positive. Pourquoi? Parce qu'on est encore en train de manger, en quelque sorte, le pain blanc de l'après-Covid. On a retenu les investissements, on a retenu les dépenses pendant le Covid.
Il y a beaucoup d'entreprises qui auraient 2020, pu être liquidées, qui n'ont pas été.
Bon, et surtout, il y a encore beaucoup d'investissements. Il y a des recrutements. Un des paradoxes de la situation actuelle, c'est que le marché du travail est très tendu. Les entreprises, en fait, embauchent. L'emploi va bien. Le taux de chômage est faible. Et on a augmenté de 2% l'emploi salarié, alors que le PIB n'est que 1% supérieur à ce qu'il était avant la crise. Donc c'est un peu bizarre. On a plus embauché qu'on a recommencé à produire.
Daniel Cohen, vous dites pas de récession cette année? Mais est-ce que je dois entendre dans votre phrase qu'il y a trois petits points, mais peut-être l'année prochaine?
Alors, pas de récession cette année au sens des données de l'année, hein, c'est-à-dire le PIB va croître sans doute, selon l'INSEE, d'au moins 2,5%, disons. Mais au fil de l'eau, les trimestres vont être mauvais. Ça sera plutôt plat au cours des... En tout cas, certes, cette année, déjà, le premier trimestre est plat, le deuxième le sera quasiment, on va voir pour le troisième. Mais il ne faut pas s'attendre au fil de l'eau à une augmentation spectaculaire, mais comme on a bien terminé l'année d'avant, vous voyez, on est sur une marge plus élevée, on a un acquis de croissance, comme dit l'INSEE, qui fait ça sera pas, on n'aura pas un PIB négatif cette année, ça c'est certain. Mais l'année, au fil de l'eau, sera très mauvaise.
On parlait à l'instant de la question aussi de la hausse des petits salaires. Jean-Luc Mélenchon a dit hier qu'il était favorable à un SMIC à 1500 euros. Je ne vais pas vous demander de faire de la politique, mais justement de nous dire quel serait l'impact.
Bon, l'impact, si ça n'est pas accompagné d'une augmentation des autres salaires, ça veut dire qu'on va avoir une smicardisation croissante de la population française. Hein. Plus le SMIC monte sans que les autres salaires soient
augmentés. Soit tout le monde augmente.
Voilà. Donc, et moi,
on se retrouve avec
tout le monde au minimum. Donc, moi, je suis plus favorable aujourd'hui à avoir une réflexion, celle qu'on vient de dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour les bas salaires? Quelles sont les branches qui peuvent se permettre de les augmenter? Où est-ce que, dans quelle branche, le gouvernement gouvernement a besoin d'intervenir pour faire que cette augmentation de salaire se fasse. De toute façon, le SMIC est indexé. Les SMICA sont ceux, peut-être les seules catégories de la population aujourd'hui qui, entre guillemets, sont protégées. Mais il ne faut pas qu'on aille vers une smicardisation générale de la France. Donc, il faut que les autres bas salaires augmentent. Mais là encore, je redis, il faut que ça se fasse dans un cadre concerté.
La lutte contre la baisse de pouvoir d'achat, il y a soit, comme vous le dites, l'augmentation des salaires, soit des aides ponctuelles. D'ailleurs, peut-être qu'il faut les deux. Mais les aides ponctuelles, par exemple, il y a cette ristourne sur le prix de l'essence, qui de 18 centimes par litre, qui est censée s'arrêter au 31 juillet. Est-ce qu'il faudrait la poursuivre ou est-ce qu'il faudrait cibler davantage ceux qui ont le plus besoin de leur voiture?
Bon, moi, je pense qu'on a fait beaucoup de choses.
Il faut continuer l'échec, quoi.
Voilà, il faut pas, je pense pas qu'on puisse continuer l'échec comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on doit débrancher le soutien. Je crois qu'il y a un moment qui va venir très vite, après les élections, les législatives, peut-être avant la fin de l'année, où il faut qu'on repense tous nos dispositifs pour leur donner justement une vision beaucoup plus intégrée. On sait ce qu'on veut faire. On veut aider les bas salaires, on veut aider, a fortiori bien entendu, ceux qui vivent des minima sociaux, et on veut aussi aider ceux qui dépendent beaucoup de la voiture. Tout ça est un peu contradictoire. Les Gilets jaunes ont montré qu'il y avait une demande spécifique du côté de ceux
qui sont dépendants de leur voiture.
Pourquoi? Et pourquoi c'est souvent des classes populaires? Parce que s'ils sont dépendants de leur voiture, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre dans les centres-villes où c'est trop cher, donc ils doivent aller loin et en réalité ils se retrouvent dans des zones où il y a besoin de la voiture. Il faut une réflexion globale comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus subventionner l'automobile. C'est-à-dire on sait aussi qu'on doit sortir des énergies fossiles.
C'est un vrai dilemme.
Donc c'est un dilemme à court terme, mais c'est complémentaire à long terme. C'est-à-dire qu'on veut à long terme profiter en réalité de ces dérèglements pour réfléchir en profondeur à ce qu'est une géographie du territoire harmonieuse, donc que les constructions nouvelles ne se fassent pas à plus de 10 minutes d'une gare. C'est des choses comme ça, les réflexions auxquelles il faut penser.
Donc on va une nouvelle forme d'urbanisme.
Ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre près de Notre-Dame, mais ça veut dire que si je construis, si je réfléchis à ce qu'est la géographie de nos villes du 21e siècle, il faut que ça soit des hubs dans lesquels il y ait des gares, il y ait des transports collectifs. C'est cette réflexion qu'il faut avoir. En attendant, on ne peut pas laisser les gens se débrouiller, donc il faut réfléchir à des mécanismes un tout petit peu plus universels dans lesquels il y a des transferts sociaux, et ces transferts sociaux doivent prendre en compte les lieux de résidence, mais sans enfermer les gens dans ces lieux de résistance. C'est très compliqué, mais il faut réfléchir à ça. Donc, on ne va pas continuer des chèques alimentaires, carburants, etc. Je crois qu'il faut reprendre la main. Quel est le quantum de transferts sociaux qui sont nécessaires pour traverser non pas seulement cette crise ukrainienne, mais cette transition climatique? C'est ça encore qui doit être mis sur la table.
Daniel Cohen, on sait que dans les minutes, les heures qui viennent, il y aura sans doute un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre. Il y a un point sur lequel, visiblement, il a été compliqué de convaincre ceux à qui, pour l'instant, Emmanuel Macron avait proposé le job, c'est la question des retraites. C'est-à-dire que celui qui s'engage à reprendre Matignon s'engage également à porter cette réforme des retraites à laquelle s'est engagé Emmanuel Macron. Est-ce que c'est nécessaire de réformer les retraites? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de réformer les retraites et de prendre peut-être le risque d'une colère sociale dans la rue? Non. Est-ce que humainement, économiquement, il faut allonger le temps de travail?
Alors, je vais y répondre, mais avant toute chose, on parlait de négociation sociale. C'est très important, encore une fois, pour éviter de répéter les années 70. La réforme des retraites fait partie, normalement, de ce qui est mis dans le paquet des choses que les partenaires sociaux discutent. Commencer en faisant une mauvaise manière, on va dire simplement, à la CFDT, qui était très engagée dans la précédente réforme des retraites, en disant, bon, finalement, c'est 64 ou 65 ans, c'est pas une bonne manière de restaurer la confiance entre les partenaires sociaux.
On nous a promis que ce serait le moment du dialogue.
Si on commence par massacrer le gros sujet social qui est celui qui coûte le plus en réalité, les retraites, ça commence mal la négociation sociale. Après, quand on dit est-ce qu'il faut les réformer, oui, certainement, on va pas vivre à la fin du 21e siècle comme au début du 20e siècle dans le rapport au travail et à l'âge. Mais si la question c'est est-ce que c'est impératif du point de vue macro-financier, la réponse est non. Tout le monde sait que
on pourrait encore attendre un peu.
C'est-à-dire, on sait que les réformes qui ont déjà été faites, les réformes Touraine qui vont nous amener à 43 ans de cotisation, la désindexation des salaires, des retraites sur les salaires et la seule indexation sur les prix, tout ça produit comme effet sur les 30-40 prochaines années une baisse de la part des retraites dans le PIB global.
Ça va coûter moins cher. Mécaniquement, presque démographiquement.
À cause des mesures et à cause du fait que les retraites n'étant pas indexées sur les salaires, la hausse du PIB mécaniquement, vous voyez, dilue la part des retraites dans le PIB. Donc là, on est au-dessus de 14.
Je vais essayer de comprendre. Ouais. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que économiquement, ça n'est pas urgent de réformer les retraites.
Voilà, économiquement, ça n'est pas nécessaire. Encore une fois, la part des retraites est supérieure à 14% du PIB, ça va se rapprocher de 12%, donc les réformes déjà faites font baisser la part des retraites. En revanche, il y a des questions qui vont se poser, c'est-à-dire, est-ce que les retraités ne vont pas s'appauvrir trop relativement au reste de la population ? C'est ça qui est mis en réalité dans cette équation qui, curieusement, fait baisser la part des retraites dans le PIB. Ça, c'est une réflexion d'une autre nature. Est-ce qu'on veut faire
niveau
plus
de pension, quoi.
Est-ce qu'on veut faire plus pour les pensions ? Donc ça fait partie d'une négociation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire pour les basses pensions ? Qu'est-ce qu'on veut faire pour les autres ? Il y a une vraie négociation à avoir. La réforme par point n'était pas mauvaise en soi parce qu'elle amenait...
Qui était à l'origine la réforme promise par Emmanuel Macron,
soutenue par la CFDT. Ce qui n'allait pas, c'est qu'on a voulu faire une réforme unique pour le secteur public et pour le secteur privé, pour les professions libérales et pour les salariés. C'est ça qui a créé du chaos. Mais si on reprend l'idée, à partir du moment où on admet qu'il y a un socle, que ça pourrait être à 1100, pourquoi ne pas réfléchir au-dessus de ce socle, à donner plus de flexibilité.
1100 euros de minimum de pension,
voilà,
par exemple.
On peut même aller au SMIC, ça serait beau. C'est-à-dire, on est certain qu'à partir du moment où vous avez cotisé 43, vous avez droit au salaire minimum. Et puis le delta, oui, on peut prendre des systèmes par points pour permettre à ceux qui veulent travailler comme des dingues jusqu'à 85 ans de gagner plus s'ils le veulent. Donc il y a une vraie réflexion sociale à avoir, mais encore une fois, elle est sociale. Elle n'est pas macroéconomique.
La raison est plus sociale et politique qu'économique. Mais Daniel Cohen, je reviens quand même sur ce que vous m'avez dit au début. Vous avez commencé par me dire que la situation elle était explosive, qu'il y avait comme un air de gilet jaune parce qu'il y avait potentiellement une explosion sociale. Donc dans ce contexte-là, rajouter ou lancer l'allumette des retraites, est-ce que c'est franchement une bonne idée ?
Non, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, si on veut parler des retraites, pourquoi pas ? C'est important. C'est pas de cette manière-là. En plus, tout le monde sait, indépendamment de ce qu'on vient de dire sur le fait qu'il n'y a pas du tout le feu dans la demeure, en tout cas eu égard aux réformes qui ont déjà été faites, tout le monde sait aussi que des mesures d'âge sont très inégalitaires. Quand on dit vous allez travailler,
auquel vous avez commencé à travailler.
Voilà, exactement. Quand on dit vous allez travailler jusqu'à 65 ans, ça veut dire que celui qui a comme ou celle qui a commencé à 20 ans va cotiser 45 ans, alors que celui ou celle qui a commencé à 22 ans va cotiser 43 ans, comme c'est déjà prévu. Donc en réalité, des mesures d'âge allongent de 2 ans la durée de cotisation de ceux qui sont les moins bien dotés, puisque ce sont ceux qui ont commencé à travailler plus tôt. Donc si c'est pour dire non, mais on va prendre ça en compte, etc., alors ça veut dire qu'en réalité, on s'embrouille. Donc non, s'il y a des mesures à prendre pour revaloriser les pensions, je ne sais pas, c'est pas des mesures d'âge, c'est des durées de cotisation éventuelles qu'il faut prendre en compte.
Dans ce contexte, avec cette croissance quasi nulle et cette inflation, est-ce qu'emprunter de l'argent va coûter plus cher ?
Alors, oui, nominalement, puisqu'on avait des taux d'intérêt nuls ou négatifs et que maintenant ils vont devenir positifs. La Banque Centrale a déjà annoncé que les taux allaient redevenir positifs à partir du mois de juillet, mais c'est déjà le cas de la France quand elle s'endette à 10 ans. Mais attention, le vrai coût, c'est pas le coût qu'on paye nominalement. Il faut prendre en compte l'inflation.
C'est pas le coût que chacun paye à la fin du mois pour rembourser un emprunt.
Non, parce qu'il y a l'inflation. Si je m'endette de 100, que je paye 10% d'intérêt, mais que l'inflation est à 20%, en réalité, j'y gagne. Parce que l'inflation...
Parce que je vendrais plus cher mon bien ou ce que j'aurais acheté.
Exactement. Voilà. En termes de pouvoir d'achat, je vous rends moins que ce que je vous ai emprunté. Donc, on reste encore. C'est pour ça qu'il ne faut pas...
Donc, vous ne découragez pas ceux qui nous écoutent et qui ont éventuellement des projets et qui peuvent se le permettre de le faire.
De le faire s'ils sont eux-mêmes garantis, comme ce sera le cas de l'État, que leurs revenus seront indexés sur l'inflation. C'est ça la différence. L'État, par définition, son revenu est indexé sur l'inflation parce que son revenu, c'est le PIB. Et le PIB, il augmente comme l'inflation. Donc l'État ne sera jamais mis en défaut ou en difficulté par cette hausse des taux parce que l'inflation, pour l'instant et pour longtemps encore, si on regarde les projections, ce sera le cas
ça
dans les 10-15 prochaines années. L'inflation, oui, mais même si vous voyez...
Non, mais attendez, 10-15 prochaines années, l'inflation ou c'est moi qui ai mal compris ?
Non, je dis, l'État se finance... En France, va se financer autour de 1,5%. Même à supposer que l'inflation converge vers les 2% que nous a promise la Banque Centrale Européenne.
Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous estimez que c'est une estimation plutôt basse.
Oui, donc à supposer
plutôt
que ça,
optimiste.
C'est, voilà, disons que c'est 2. On se projette dans les 10 prochaines années. Okay. Disons que l'inflation est à 2. Si la France continue de se financer à 1,5%, vous voyez que le taux auquel la France se finance est inférieur à l'inflation. Donc, en réalité, l'État gagne toujours de l'argent, même si c'est moins visible, en s'endettant. Les taux sont positifs, mais les taux réels, après correction par l'inflation, restent négatifs.
Daniel Cohen, est-ce qu'en France, aujourd'hui, quand on est pauvre, on est de plus en plus pauvre, et quand on est riche, on est de plus en plus riche.
Ce qu'on voit, en tout cas, c'est difficile d'extrapoler ce qui va se passer dans les 5 ou 10 prochaines années, parce que cette hausse des taux dont on vient de parler va faire baisser le prix des actifs. Donc les riches qui ont beaucoup bénéficié de la hausse de leur patrimoine vont être un peu écornés par la remontée des taux. Mais bien sûr que oui, on sait que depuis 10 ans, 20 ans, on est dans un monde social complètement éclaté, on a perdu depuis longtemps déjà ce qui faisait la force de la société industrielle, c'est-à-dire une société dans laquelle les ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs et les patrons, au fond, appartenaient au même monde. Maintenant, on vit dans des mondes séparés, pas simplement géographiquement, mais industriellement. On a des entreprises où on ne regroupe que des ingénieurs, on a des entreprises de sous-traitance où il n'y a que des ouvriers, on a des services d'entretien.
Chacun est dans sa boîte et a du mal à en sortir.
Il n'arrive plus à en sortir et il n'y a plus de force de cohésion. C'est pour ça que l'État joue un rôle très important, plus encore que dans les années 70.
Et heureusement que l'État est là, donc si je vous écoute bien. Daniel Cohen, merci de nous avoir donné les clés pour mieux comprendre ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste. Je retiens quand même des mots assez inquiétants dans votre vocabulaire. Fracture, chaos, explosion. Tout cela, c'est au menu du futur ou de la future Premier ministre qu'on aura sans doute dans la journée et qui aura donc du pain sur la planche.